Ouais, c'est normal que les gens ne sachent plus rien. Les études ne sont plus ce qu'elles étaient. De mon temps, on apprenait les départements, les préfectures, les sous-préfectures, Pas-de-Calais, Chef-lieu-Arras, etc.
Espèce d'espace, l'émission qui va vous faire aimer la géographie.
Les portes du printemps Haussmann, dans le 9e arrondissement de Paris, venaient de s'ouvrir, laissant entrer une première vague de clients. L'un d'eux, venu davantage par curiosité que pour les achats de Noël, restait émerveillé devant la profusion d'articles qui s'étalaient devant lui.
Puis, porté par la foule, il commença à déambuler parmi les bijoux, les montres, les sacs et les parfums. Cette accumulation infinie de produits lui donna envie de se perdre, de laisser aller ses pas où bon leur semblerait.
Les grands magasins ont une organisation intérieure très particulière, n'est-ce pas, Corten ?
En effet, Alexandre, ici, pas ou très peu d'espaces fermés, de passages interdits aux clients ou de cloisons empêchant la circulation.
L'espace n'est donc pas divisé en deux, avec d'un côté l'espace réservé aux clients et de l'autre l'espace où sont disposés les produits.
Les deux sont totalement imbriqués pour créer un espace où les produits sont à portée de main du client, sur des étalages espacés les uns des autres. Les clients se retrouvent au milieu des produits, passant d'une marque à l'autre, sans pour autant changer de lieu. La circulation au niveau de l'étage est très organisée.
Il y a un sens circulatoire. C'est pour ça que les escalators sont d'un sens et non pas d'un autre, de manière à créer un flux en fait continu de ce côté-ci. Mais en fait, c'est vraiment un flux continu. C'est-à-dire qu'au fond, là-bas, il y a les ascenseurs, juste après Rolex. Donc du coup, entre les escalators et les ascenseurs, le flux continue toujours par ce sens-là.
Donc, à cette mobilité horizontale aisée, mais très guidée, il faut également ajouter que l'on passe très facilement d'un étage à l'autre.
En effet, les nombreux escalators situés au centre du magasin sont très bien indiqués et permettent aux clients de se déplacer d'un étage à l'autre.
Il n'y a pas d'escalier ?
Si, mais ils sont situés sur les côtés et sont interdits au public, à part celui reliant le 6e étage au 7e. Mais si tu ne veux pas prendre les escalators, Alexandre, tu peux toujours te rabattre sur les ascenseurs disposés aux quatre coins du bâtiment.
Zut, moi qui voulais faire du sport pour perdre mes kilos en trop, c'est raté.
Eh oui, tout est fait pour que les gens se déplacent rapidement et sans le moindre effort, pour que le shopping soit le plus agréable possible.
Et si on veut aller dans les autres bâtiments du grand magasin, on doit passer par la rue ?
Mais non, encore une fois, tout est prévu pour que les clients restent bien au chaud dans le magasin. Il existe des passerelles ainsi qu'un passage souterrain qui relie les trois immeubles du printemps Haussmann, comme vous pouvez le constater sur notre page Espèces d'espace.
Les yeux fermés, j'achète tout au printemps.
Ses pas le menèrent jusqu'à un escalator. Les étages défilaient sous ses yeux. Accessoires et luxe, joaillerie et montres de luxe, couturiers internationaux, mode, haute couture, chaussures, mode et élégance, et enfin mariage et lingerie.
Arrivé au 7e et dernier étage, il se fraya un chemin parmi les robes de mariée et découvrit un grand espace vide et circulaire, dominé par une gigantesque coupole aux multiples panneaux colorés.
Cette vision des étages qui défilent successivement rend bien compte de l'organisation verticale du magasin. À sa construction, la coupole permettait d'éclairer de lumière naturelle tout le bâtiment. Il n'y avait pas de rupture. Aujourd'hui, la coupole ne surplombe plus que les tables d'un restaurant. L'espace vertical a été complètement compartimenté, notamment dans un objectif de gain d'espace.
En quelque sorte, le vide entre le plancher et le plafond initiaux a été comblé par ces multiples étages, de l'accessoire de luxe aux tenues de mariage, en passant par la haute couture et la joaillerie. Quelle est la relation entre ces compartiments, à ton avis, Alexandre ?
Je me demande justement s'il y a une hiérarchie verticale. Est-ce que la montée dans le magasin correspond à une montée en gamme ? Il est important de souligner que tous ces étages sont en interaction permanente. Il y a certes une division fonctionnelle. Chaque étage est affilié à un type de produit ou à un secteur défini. Mais cela n'empêche pas les échanges verticaux.
Et c'est aussi vrai du point de vue d'un vendeur.
Moi, par exemple, ça fait 10 ans que je suis dans le magasin, donc j'en connais, on se croise tous les jours, ne serait-ce que pour aller manger. Les postes tables sont à peu près tous pareils, donc on se croise toujours, que ce soit pour aller manger, pour aller aux toilettes. Et les toilettes sont communes pour les employés. Donc voilà, c'est un endroit de rencontre aussi. Il y a une petite salle de pause aussi qui est conviviale. Enfin voilà, on a pas mal de choses qui font qu'au final, on se connaît quand même tous.
Si l'espace vertical a été segmenté, divisé par fonction, il faut donc bien voir qu'il n'y a pas de frontière nette, pas de barrière. La circulation entre les étages est au contraire encouragée, comme nous l'avons vu juste avant.
Que ce soit pour les clients ou les vendeurs, le magasin se pense et se représente à la fois à l'échelle horizontale d'un étage et à l'échelle verticale du bâtiment entier. Les panneaux de verre, transpercés par les rayons du soleil, resplendissaient tels des rubis, des topazes et des émeraudes. Aveuglé, il recula de quelques pas.
Contrairement à tout ce qu'il avait vu jusqu'à présent, cette coupole, par son armature en acier et son style surchargé, semblait venue d'une autre époque.
Notre passant ne croyait pas si bien penser. La coupole en vitrail, qui est l'œuvre du verrier Brière, a été construite en 1923. Et elle n'a pas bougé depuis, Alexandre. Elle a été depuis sa construction plusieurs fois rénovée, mais jamais modifiée.
Un peu comme la façade, non ?
Effectivement. En fait, on peut dire que c'est l'ensemble de la structure externe du bâtiment qui est restée la même que depuis sa construction en 1625. La façade est plus vieille que la coupole, puisqu'elle remonte au Second Empire, en plein pendant la période des grands travaux réalisés par le baron Haussmann. Et pourtant, c'est flambant neuf.
De 2007 à 2012, la façade a fait l'objet d'un grand chantier de rénovation. L'acquisition du magasin par un fonds d'investissement détenu en majorité par des Qataris a renforcé cette politique de rénovation qui entre dans une véritable stratégie commerciale.
C'est vrai que sur les publicités intitulées « Rêve de Noël au printemps » que vous avez pu voir dans le métro, sur ces publicités, c'est bien la coupole et la façade du magasin qui sont essentiellement mises en avant. Elles symbolisent le printemps.
La rénovation permet en effet d'associer la marque du printemps à une image bien définie, une image qui peut donc être véhiculée à l'international.
Et le fait de cibler la clientèle étrangère se traduit par la mise en place d'équipements d'accueil qui leur sont exclusivement destinés.
Cela passe par des halls de réception séparés, des affichages multilingues, des bureaux de change, des moyens de paiement spécifiques. Le site internet du printemps est décliné en anglais, en chinois, en japonais et en arabe.
Ainsi, pour résumer, on a dans ce grand magasin une dichotomie entre une façade, figée au 19e siècle, subissant un petit lifting de temps à autre, et un intérieur ultra moderne. Tous les vendeurs ont des iPads et il y a des écrans interactifs partout.
Donc, Corten, reprenons si tu le veux bien. On peut donc distinguer trois étapes dans cette stratégie commerciale du printemps.
Premièrement, une rénovation constante de la façade et de la coupole, en équilibre avec une adaptation à la modernité.
Deuxièmement, l'association de ces éléments architecturaux préservés à l'image de marque du printemps qui est largement diffusée à l'international.
Ce qui, troisièmement, se traduit par la mise en place d'équipements pour la clientèle étrangère.
Et de tant d'éclat et de luxe, il retourna sur ses pas et se mit en quête de la sortie. Mais les escalators semblaient avoir disparu. Après avoir fait 3 fois le tour de l'étage et demandé son chemin à 2 vendeurs, qui lui indiquèrent des directions opposées, il aperçut enfin les escalators, maudissant les signalisations trompeuses.
Sa descente lui offrit un tout autre paysage. Outre ce qui avait attiré son regard lors de son premier passage, il remarqua que tout un monde s'organisait autour des boutiques. Un spa, un coiffeur, des cafés, des restaurants, des salles de repos.
Au printemps, il est question de mode, de vie et d'art de vivre. Pour le déjeuner, le goûter, ou pour une simple pause shopping, selon vos humeurs et votre temps, découvrez le plaisir de varier les plaisirs.
Ce grand magasin n'est pas uniquement composé de boutiques, mais aussi de toute une série de services différents, n'est-ce pas Alexandre ?
Le printemps invite l'acheteur à diversifier ses usages de l'espace, à ne pas se limiter à acheter un sac, un bijou, des chaussures, mais aussi à se faire plaisir avec un macaron de chez La Durée.
Mais bon, il paraît qu'ils sont bons.
Ou à se relaxer dans un spa après avoir pris un déjeuner copieux sous la coupole.
Le printemps fait donc tout pour que le client puisse y passer la journée. Le printemps peut être considéré comme un lieu de vie à part.
Dans ce grand magasin, tout serait ainsi fait pour que les clients soient coupés du monde. Absence de fenêtres, de médias et de montres donnant la bonne heure.
Tout cela contribue à ce que le magasin soit vraiment coupé de ce qu'il se passe à l'extérieur.
Le magasin se montre bien comme un espace extraordinaire, au sens littéral du terme, j'entends. Il sort physiquement et temporellement de l'ordinaire.
C'est donc un lieu de vie à part, non seulement du point de vue du client, mais aussi du point de vue du vendeur.
Chaque année, il y a une réunion de tout le printemps,
ouais.
Où on remet des trophées pour, par exemple, le meilleur accueil, les meilleurs... c'est vraiment relationnel, c'est-à-dire le meilleur relationnel qu'on va avoir avec les clients. C'est pas la meilleure vente, ça, on n'entend pas parler, on parle pas de chiffres, c'est voilà, tout l'accueil, le travail qu'on va faire, que les maisons font pour récupérer les clients. Et ça, donc à la fin, il y a chaque année, il y a un trophée qui est remis sur différentes catégories, sur différents secteurs.
Le grand magasin est donc une sorte de microcosme avec son organisation spatiale propre et sa temporalité interne. Il y a un emploi du temps et un calendrier des événements annuels et communs à tous les vendeurs.
Donc, si je reprends, on a vu dans ce magasin une division fonctionnelle, un système de mobilité, des équipements spécifiques, toute une série d'acteurs aux intérêts divergents.
En fait, on peut vraiment parler d'une ville à la verticale, avec ses acteurs donc, qui entrent en interaction, ses enclaves, ses quartiers, ses rues et ses transports.
Ainsi, si le client est passant, le vendeur est habitant avec ses habitudes, ses relations et ses pratiques quotidiennes.
Voilà, c'est un peu ça le magasin, c'est une petite ville.
C'est vraiment une petite ville.
Donc si j'ai bien compris, le printemps est un espace de rencontre, voire de sociabilité. Mais est-ce qu'il est pour autant un espace public, Alexandre ?
Mais de quel espace public parles-tu, Corten ? Parce que Antoine Fleury, dans un article sur le site Hypergéo, distingue lui quatre conceptions de l'espace public. L'espace public politique, comme espace de débat, l'espace public sociologique, où se développent des interactions, l'espace public défini juridiquement, et l'espace opérationnel pour les pouvoirs publics. Lequel des quatre ?
Bah, aucun. Le printemps est en fait à la fois un espace privé, appartenant à une entreprise, le printemps, avec ses lois propres, mais c'est aussi un espace qui s'ouvre au public et qui dépend essentiellement de cette ouverture.
Donc un espace semi-privé en quelque sorte, un espace privé publicisé.
Lentement, la foule diminuait. Des volées de cloches, à une heure d'intervalle, avaient déjà sonné les deux premières tables du soir. La troisième allait être servie, et dans les rayons, peu à peu déserts, il ne restait que des clientes attardées, à qui leur rage de dépenses faisait oublier l'heure.
Du dehors ne venaient plus que les roulements des derniers fiacres. Au milieu de la voie empâtée de Paris, un ronflement d'ogres repus, digérant les toiles et les draps, les soies et les dentelles, dont on le gavait depuis le matin.
À l'intérieur, sous le flamboiement des becs de gaz, qui brûlant dans le crépuscule, avait éclairé les secousses suprêmes de la vente, c'était comme un champ de bataille, encore chaud du massacre des tissus. Les vendeurs, harassés de fatigue, campaient parmi la débâcle de leurs casiers et de leurs comptoirs, que paraissait avoir saccagé le souffle furieux d'un ouragan.
On longeait avec peine les galeries du rez-de-chaussée, obstruées par la débandade des chaises. Le blanc avait neigé à terre. On butait contre des banquises de serviettes. On marchait sur les flocons légers des mouchoirs.
Même ravage en haut dans les rayons de l'entresol. Tandis que, en bas, au fond de la maison, le service du départ, en pleine activité, dégorgeait toujours les paquets dont il éclatait et qu'emportaient les voitures. Dernier branle de la machine surchauffée.
Mais, à la soie surtout, les clientes s'étaient ruées en masse. Là, elles avaient fait place nette. On y passait librement. Le hall restait nu. Tout le colossal approvisionnement du Paris Bonheur venait d'être déchiqueté, balayé, comme sous un vol de sauterelles dévorantes. Merci de nous avoir écoutés.
Et rendez-vous sur radiocampusparis.org à la page Espèces d'espace.